Alors, donc, je vous présente Noémie Vudin, qui vient nous parler de fées. Noémie Vudin, je prends... Ben oui, Noémie Vudin, qui a donc soutenu, il y a maintenant 2 ans, quand même. Un an et demi, oui. Il y a un an et demi, qui a soutenu avec moi une thèse sur la représentation du petit peuple dans la littérature de jeunesse francophone contemporaine, tradition féerique et renouvellement romanesque. Et que je suis vraiment très fier de présenter parce qu'elle est l'émanation directe de ce qu'on fait à Nancy, hein, puisqu'elle a fait toute sa scolarité en culture et communication avant de basculer avec une thèse en études, enfin, qui n'était pas en études culturelles d'ailleurs, mais qui était à l'époque en littérature française. Donc Noémie, la parole est à vous.
Merci.
Vous avez une éternité que vous n'avez pas vue.
Oui, voilà, ça fait l'occasion. C'est pour ça que je suis venue d'ailleurs. Donc oui, je vais vous parler des petites fées, hein, puisque Olivier disait qu'on n'avait pas encore eu de fées, donc voilà, fallait bien les amener un petit peu. Et plus précisément du lien entre ces fées qu'on trouve en fantasy et la notion d'histoire, qui est assez problématique, comme je vais le présenter, parce que bon, on en parle depuis ce matin, la fantasy a un rapport assez particulier à l'histoire, hein, des fois bah, elle va la précéder, en proposant par exemple des récits avec des cosmogonies. Elle va lui succéder avec par exemple des eschatologies, proposer des uchronies, des univers steampunk comme Caroline l'a montré par exemple, etc. Donc il y a vraiment tout un rapport à l'histoire qui est particulier et qui semble lié à sa conception du temps. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter parce que comment parler d'histoire avec un grand H quand on a une conception du temps qui est un petit peu particulière et un petit peu bizarre ? Notamment quand on a des personnages qui vont voyager entre des mondes dont les temporalités ne sont pas les mêmes, en fait, hein, tout simplement, c'est là le problème. Donc c'est ce que je vais essayer enfin je vais pas y répondre parce que c'est trop large, donc je vais essayer de proposer quelques pistes assez rapidement, sans forcément rentrer trop dans les détails, donc après je pourrai répondre à vos questions sur le sujet. Donc je vais surtout m'appuyer sur la fantaisie féerique. Et... je vais d'abord m'appuyer sur mon collègue Samuel Mine qui dit que le surtitre de chronique, c'est quelque chose qui est très récurrent en fantasy. Donc je ne vais pas vous proposer une liste exhaustive de tous les titres qui commencent par chronique de quelque chose, mais il y en a un certain nombre. Et cette redondance, voire même cette mode hein, que l'on peut qualifier de chronicomanie, pour reprendre le terme de Balzac, témoigne justement d'une certaine volonté quand même historiographique de la fantasy. Puisque la chronique se définit d'abord et avant tout comme le fait de présenter des faits historiques et surtout dans une chronologie, dans un déroulement logique. Donc. Mais est-ce qu'on peut parler de logique temporelle en féerie ? Parce que le temps, c'est une conception qui est vraiment à la base de notre façon de voir le monde. En témoignent toutes les sciences, par exemple, qui sont basées pour beaucoup sur cette notion de temporalité, hein, qui est une des unités internationales qu'on a mis longtemps à essayer de calculer de manière précise. Et donc tout ce qu'on décrit, l'homme, en fait, quand il décrit le monde autour de lui, il va le faire en se basant sur le temps. En fait, les faits, que ce soit les faits historiques, mais aussi son expérience personnelle, sensitive, sentimentale. Et c'est là tout l'enjeu, en fait, c'est qu'il se base sur une unité qu'il a lui-même créée. Parce que, est-ce qu'on peut parler de temporalité dans le monde des animaux ? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est humain, la façon dont on prend le temps. Et c'est pour ça que le temps, il est modifié quand nos personnages vont voyager d'un monde à l'autre. D'un monde premier vers un univers second. Il y en a un qui est peut-être plus ou moins proche d'une autre. On a parlé d'Harry Potter avant, le premier monde qui serait plus ou moins le monde réel, un monde second qui est le monde plutôt magique. Donc, après, chaque œuvre s'approprie cette chose à sa façon, mais voilà, il y a une idée de voyage, en fait. Et dans ces univers féeriques, en tout cas, le temps n'est pas logique, c'est-à-dire que dans beaucoup d'œuvres, notamment issues de la tradition des contes de fées, on peut mettre, je ne sais pas, par exemple, 5 jours pour aller d'une ville A à une ville B, et pour faire le même trajet à un autre moment, sans qu'il y ait forcément de différence en termes de météo, je ne sais pas, on peut mettre 3 fois plus de temps, 3 fois moins de temps. Il n'y a pas de linéarité temporelle, je vous mets ça juste après, et il n'y a pas non plus de parallélisme. Par exemple, notre personnage qui voyage dans un autre monde, aussi bien il va partir pendant 10 minutes, mais quand il va revenir, il va avoir vieilli de 100 ans, ou l'inverse, il va partir pendant 300 ans, mais il va revenir, le temps ne va pas s'être écoulé finalement dans son monde de départ. Donc voilà, il n'y a pas de parallélisme entre les deux temporalités. C'est pour ça qu'on peut parler d'asynchronisme, c'est-à-dire un écoulement différent du temps dans les différents mondes qui sont mis en scène. Donc ces écarts temporels qui séparent la féerie et la réalité ne peuvent pas être définis avec exactitude, comme notamment en témoigne cette remarque d'un personnage d'Alexandre Malagoli qui dit « le temps d'ici et le temps de là-bas sont parfois très différents ». Donc ici, l'importance de cette citation repose sur l'adverbe « parfois » qui marque vraiment cette irrégularité, puisqu'il souligne un intervalle où bah, parfois les choses sont vérifiées, mais pas toujours. Donc il s'agit d'indiquer que ce dont il est question se vérifie qu'en certaines circonstances, mais lesquelles, on n'a pas plus de précision à ce sujet. C'est là toute l'ambiguïté du phénomène temporel en féerie, et toute l'ambiguïté dans les mondes, dans ces mondes-là qui vont s'opposer par cette différence de chronotope en fait. Donc là, je ne vais pas m'arrêter sur la géographie, mais il y a aussi des distorsions géographiques. Donc ça, c'est pour vraiment la fantaisie plus large. Et en ce qui concerne la fantaisie qui est encore plus inspirée des contes de fées merveilleux, on va voir que cette fois, ce n'est pas d'asynchronisme dont on peut parler, mais d'achronisme, c'est-à-dire qu'on est dans un hors-temps total, comme le suggère déjà dès le départ la formule introductive des contes de fées, « il était une fois hein, ». On n'a aucun moyen de mesurer cette temporalité. Elle semble même pas exister parfois, hein, puisque dans certaines œuvres, comme par exemple dans « Le grimoire du petit peuple » ou « Galimède, fée blanche, ombre de teint », pour n'en citer que deux, les personnages eux-mêmes revendiquent cette absence de temps en disant que finalement c'est un concept humain, un concept donc de mortel. Et comme ces personnages sont souvent immortels, ou en tout cas ont une durée de vie qui par rapport à la nôtre est suffisamment longue pour qu'on les considère comme étant immortels, ils n'ont pas besoin de la féerie, puisque la féerie a été créée par des hommes qui vont effectuer un court passage sur Terre. Donc eux, ils ont besoin de mesurer. C'est le lapin qu'on a dans Alice au Pays des Merveilles, qui est toujours obsédé par le temps, alors que bon, quand on vit une éternité, voilà, le temps n'a aucune importance. Se pose la question de savoir, dans ces mondes-là où il n'y a pas de temps, comment est-ce qu'on peut raconter des faits, puisque pour raconter des faits, il faut qu'il y ait des souvenirs. Et donc, pour qu'il y ait des souvenirs, il faut qu'il y ait un temps. Et c'est notamment ce qui est soulevé dans Peter Pan de Loisel, à propos notamment de la fée Clochette. Hein, donc déjà, l'histoire se passe à Neverland, le pays de jamais, donc le temps, il n'existe pas, dès le départ, on le sait. Et donc, Clochette, hein, qui est vraiment le personnage représentatif de ce monde-là, hein, qui est le symbole de cette magie, de ce surnaturel, de cette féerie, comme il n'y a pas de temps, bah elle fait tout ce qu'elle veut et sans prendre conscience de la portée de ses actes, en fait. Donc elle peut causer la mort d'une fillette, c'est pas grave, de toute façon personne ne va s'en rappeler vu qu'il n'y a pas de temps. Ses actes ne s'inscrivent pas, en fait, dans la durée. Donc elle ne peut pas avoir elle-même conscience de cela, et nous on n'a pas conscience de cela, parce que pour que les choses existent, pour que son acte existe, il faut qu'on ait des souvenirs et donc un temps qui passe. Donc ça, on le voit par exemple, voilà. Donc c'est un peu petit, vous pouvez pas voir, mais en fait, voilà, ils sont en train de critiquer Clochette et ils se rendent bien compte par eux-mêmes que bah, de toute façon, dans 3 jours, ils auront oublié ce qu'elle a fait et donc elle pourra revenir. Et bah, voilà, ils ont même oublié que Rose, la petite fille qu'ils sont en train de pleurer, a un jour existé. Donc finalement, c'est pas très grave. Donc, dans un cas comme celui-ci, la notion de chronique historiographique ne va pas être associée au personnage ou au monde à proprement parler, mais elle va être associée finalement peut-être un peu plus au lecteur qui lui connaît la notion de temps et va essayer peut-être de rechercher une forme de logique temporelle dans ces mondes et dans tous ces événements qu'il côtoie par le biais de sa lecture. Par exemple, les chroniques de Narnia qui semblent avoir popularisé l'emploi du terme chronique en fantasy ont divisé les lecteurs quant au sens de lecture, à l'ordre de lecture dans lequel il fallait lire les tomes, parce qu'ils ont été écrits dans un désordre a priori par rapport à la création du monde et aux faits qui s'y sont passés. Et donc certains lecteurs disaient ben non, il faut les lire dans le sens de l'histoire de ce monde qu'est Narnia, et d'autres disaient non, il faut les lire dans le sens de sortie de la publication, parce qu'il y a une logique qui est celle de l'écriture de l'auteur. Donc là, on voit que la question, c'est pas forcément ce qui se passe à Narnia, c'est ce qui se passe au dehors et la façon dont nous, en tant que lecteurs, on va prendre en compte cette temporalité. Donc, il y a une distorsion dans ce moment-là entre la lecture des faits, donc la diégèse, et la chronologie et leur transmission en fait de ces événements qui sont racontés au public. Mais quand il parle justement des chroniques de Narnia, Samuel Milne précise que le terme de chronique, il est employé dans ce cas-là pour désigner le retour régulier des enfants à Narnia. Donc il y a une idée de régularité, de cycle en fait. Ils reviennent régulièrement. Donc là, le terme de chronique est à rapprocher de son acception médicale qui signifie quelque chose qui revient de façon régulière ou qui reste, qui est constant, persistant. Donc la chronologie, finalement, en fantaisie, et notamment en fantaisie féerique, pourrait être, selon ce modèle, plutôt quelque chose de cyclique, comme le suggère également l'emploi du terme cycle pour qualifier les œuvres, les séries d'ouvrages qui mettent en scène ces personnages et dans ces mondes-là. Donc, le terme de chronique n'est pas utilisé en fantaisie dans le but de présenter une réalité historique qui serait concrète, qui serait réelle, rationnelle. Elle n'a pas pour objectif de dire l'histoire telle qu'elle est, mais elle cherche à raconter une histoire. Une histoire qui s'inscrit dans une temporalité fictive qui n'a pas de lien forcément concret, ou en tout cas de consistance, avec notre monde à nous, en tant que lecteur. Mais pour ce faire, elle peut utiliser la fantaisie de l'histoire comme une sorte de base qui, elle, serait concrète, comme une sorte de vecteur, un médium, pour voyager progressivement vers des mondes plus secondaires, plus féeriques, voilà, qui ne répondent pas à la logique du réel. C'est le cas de toutes ces œuvres qui s'inscrivent dans la lignée de Tolkien et qui vont nous présenter une longue généalogie de personnages fictifs pour en somme en fait leur donner un aspect concret en les inscrivant dans un semblant de durée en fait, comme s'il y avait plein de générations avant. Ça permet d'inscrire ces personnages dans une histoire qui est certes fausse, mais une histoire qui donne du concret, en fait, un impact à ce qui est raconté. Donc la fantaisie, par là, elle va se rapprocher de ses sources forcément médiévales et mythologiques et redéfinit son rapport à l'histoire par l'entremêlement de caractéristiques un peu multitemporelles. En fait. Donc, que ce soit la généalogie, l'emploi du terme de chronique, la présence aussi de personnages historiques, on retrouve des Nicolas Flamel dans plein d'ouvrages, Dante, Rabelais, Vinci, enfin tous ces personnages historiques aussi qui apparaissent, que ce soit dans des univers steampunk, comme l'a dit Caroline, mais pas que, dans des univers purement féeriques, on a ces personnages de temps en temps qui sont là, qui sont un peu des moyens de se rappeler ou de faire le lien en fait entre l'art et la magie aussi. Donc tous ces faits donnent une sorte de vraisemblance à l'histoire qui est racontée, mais ça cause aussi, à la fois on a une vraisemblance, à la fois on a une rupture de cette vraisemblance qui crée un sentiment fantastique chez le lecteur. Ça on l'observe très nettement dans la série de Pierre Bordage, L'Ange au mineur. Là tous les titres portent le nom d'une année, 1792, 93, 94, et l'intrigue repose sur la Révolution française en fait, hein, dans laquelle apparaissent des vrais personnages, Robespierre, Marie-Antoinette pour ne citer qu'eux. Donc on a une base qui est concrète, qui est historique, avec des faits qui sont racontés vraiment avec une précision historique. Et puis d'un autre côté, à un moment, la fiction bascule dans le surnaturel, dans le féerique, parce qu'on a des personnages qui apparaissent, qui sont magiques, qui sont du petit peuple. Et le fait qu'il y ait un lien avec l'histoire, ça accentue l'effet fantastique, parce que nous, en tant que lecteurs, on se met dans la peau du personnage principal, qui est le personnage qui qui réside dans ce temps que l'on connaît, que l'on croit connaître par nos cours d'histoire. Et puis d'un coup, quand les personnages féeriques apparaissent, on est aussi mal à l'aise que lui, et on n'y croit pas, en fait. On se dit non, c'est pas possible, on est en train de rêver, voilà. Donc, ça permet de créer un lien entre le lecteur et le personnage principal. Aussi, on a plein d'autres œuvres qui sont contextualisées dans un passé qui est a priori apparenté à l'époque médiévale, en fantasy. Et celle-ci, cette fois, à l'époque médiévale, ne va pas forcément favoriser le sentiment fantastique, mais elle va favoriser l'immersion dans le merveilleux. Parce qu'il s'agit d'une époque qui semble la plus propice à ce surnaturel, à cet imaginaire, probablement parce que d'une part la littérature et puis l'imaginaire médiévaux, Justine, tu vas pas me contredire, suscite encore un intérêt culturel très fort aujourd'hui, mais aussi parce que À la fois, c'est une époque qui est assez distante de la nôtre pour qu'on puisse y rajouter plein de choses, parce que voilà, on ne sait pas finalement tout ce qui se passait dans le peuple, et pourquoi pas, il y avait peut-être des lutins qui aidaient les paysans, on n'en sait rien. Et aussi bien, on aime se plonger dans cette époque parce qu'elle a quand même une dimension historique qui fait un petit peu rêver. Mais l'idée, dans ce cas-là, c'est pas de présenter un Moyen-Âge vrai, c'est s'appuyer sur un contexte passéiste pour donner un caractère concret, pour qu'on accepte en fait d'entrer dans cet univers-là, et d'un autre côté, accepter plus facilement la présence de petits personnages merveilleuses. Voilà. Donc l'idée, c'est de donner des bases sûres, puisqu'a priori avérées, à un imaginaire qui, lui, repose sur rien de précis, en fait, si ce n'est une tradition imaginaire. Pour autant, donc si on a ce souci de donner un semblant de vraisemblance à notre histoire, en s'appuyant sur une époque qui a été, qui est passée, on crée donc une sorte de pacte de lecture. En fait, il y a l'auteur qui va présenter son monde et qui va directement, en quelque sorte, s'adresser à son lecteur en disant bon, « je t'emmène dans un Moyen-Âge, mais sois conscient quand même que c'est pas le vrai Moyen-Âge ». Et ça, Pierre Pével le fait très bien au tout début des Enchantements d'Ambremer, où il nous décrit justement ce Paris qui serait a priori médiéval, et je vais vous lire la description parce que je trouve qu'elle est très bien construite. Donc il nous dit « Ambremer était une cité médiévale telle que vous et moi, et l'essentiel de nos contemporains la rêvent. À savoir pittoresque et tortueuse, avec des venelles pavées plutôt qu'un mauvais torchis, des toits de tuiles rouges plutôt que de chaumes sales. Elle fleurait bon et non l'urine, la crasse et le fumier. Des remparts la cernaient, et en son centre sur une hauteur, le fabuleux palais de la Reine des Fées dressait ses fines tours blanches. » Donc, je vous passe la suite de la description, mais voilà, il y a vraiment cette idée de créer un décalage entre le Moyen-Âge tel qu'on l'imagine, mais attention, c'est pas le vrai Moyen-Âge. Là, ça sent bon. Donc, à travers cette description, là, l'auteur, il s'adresse. Hein, il dit « vous et moi ». Donc là, il s'adresse directement, à travers la voix de son narrateur, à son public, pour lui montrer qu'ils possèdent tous les deux la même vision d'un Moyen-Âge idéal, qui n'est pas vrai, mais peu importe, puisque... On est content en fait d'aller dans cet univers. C'est là où vous avez envie d'aller, vous, en tant que lecteur, et c'est moi là où j'ai envie de vous emmener en tant qu'auteur. Donc Ambremer, c'est une ville complètement positive, où tout est beau, c'est un lieu de vie parfait, c'est une utopie, hein, clairement. Donc ça permet aussi de donner une dimension encore plus forte à la merveille, c'est-à-dire qu'on avait le Moyen-Âge où, a priori, où il se passait des choses pas super sympas, et puis on a cette image parfaite d'un Moyen-Âge merveilleux, parce que la reine, c'est une fée, donc c'est quand même plutôt pas mal. En plus, il y a deux soleils, il y a le vrai soleil, et puis il y a ce soleil bleu qui symbolise aussi vraiment le fait qu'on est dans un autre monde. Hein. Le bleu, c'est vraiment la couleur de la merveille. Donc on a des lanternes aussi qui s'allument toutes seules, qui nous rappellent aussi Harry Potter. Donc on a tout dans cette description, c'est parfait. Donc, en insistant vraiment sur les écarts entre féerie et réel, l'auteur passe une sorte d'accord avec son lecteur. Ce qui est raconté est faux, mais il va falloir le prendre pour vrai le temps du récit. Donc là, finalement, le récit répond à la définition que Roger Caillois nous fait de l'activité ludique, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui suspendent les lois ordinaires et il faut les accepter le temps de notre lecture. Le but donc de la fantaisie, ce n'est pas de présenter une histoire vraie dans le sens historique du terme, mais son historicité repose sur un horizon d'attente. Tout le monde, quand on prend un livre de fantaisie, on s'attend à ce qui est, par exemple, ce Moyen-Âge parfait. C'est ce qu'on va y chercher en tant que lecteur. Et donc son contexte pseudo-historique fait partie de cet horizon d'attente. Et la littérature médiévale et mythologique dont s'inspire la fantaisie... c'est pareil, en fait, elle ne racontait pas des choses qui se passaient vraiment. Hein, les chevaliers de la table ronde, a priori, ils n'ont pas vraiment existé, mais ils véhiculent des valeurs, et c'est ces valeurs qui sont importantes parce qu'elles nous donnent un regard finalement sociologique sur une période, la période qui met en scène ces récits-là. Donc finalement, c'est cette histoire-là qu'on retient, c'est une histoire sociale, parce que l'imaginaire nous donne des informations essentielles sur une époque, d'un point de vue social, spirituel, idéologique, et toutes les problématiques qui sont celles de la société qui les redéveloppe. Donc construire une fiction féerique sur un contexte historique et ou sur un hors-temps total dépend du choix de l'auteur, de la dimension merveilleuse qu'il veut donner à son récit. On se rapproche par là aussi de la dimension rituelle. Hein, le rite, c'est un moyen, une transition entre le monde des hommes et le monde des divinités. Donc on est là aussi dans un hors-temps, on se détache de notre époque pour rejoindre une époque qui est celle des dieux, donc qui est un peu détachée du rationnel. La fantaisie réactive donc cet imaginaire-là, en mettant en scène des personnages similaires que dans les mythes. Enfin, ces personnages sont les mêmes. Donc elle s'inscrit finalement dans une histoire qui est une histoire littéraire et symbolique. Par exemple, Marie-Catherine Webrichard nous dit que quand la littérature actualise des mythes hérités ou engendre des mythes nouveaux, c'est pas pour raconter l'histoire sacrée des commencements, mais c'est pour exprimer un changement vécu par la société et qui se trouve en rupture avec ce qui a précédé et créer ainsi une ère nouvelle. Donc la littérature, en fait, est un moyen pour nous de montrer qu'on change d'époque, en fait, qu'il y a des nouvelles problématiques. Et si on a besoin de réactiver nos anciennes traditions, c'est parce qu'on a besoin de se recréer une sorte de mythologie moderne pour se créer de nouvelles sources en prenant en fait une sorte de distance avec notre histoire contemporaine. C'est un petit peu comme si les enfants de Narnia qui fuient leur époque en guerre en passant dans l'armoire magique, et ben nous c'est pareil, en fait, en se plongeant dans la littérature, on peut fuir certaines problématiques ou en réactiver d'autres en fait. Donc on a toutes sortes de temporalités qui se confondent en fantasy, tant parce que Mircea Eliade appelle la sortie du temps qui est opérée par l'acte de lecture, qui nous sort en fait de notre temps historique et personnel, comme je viens de le dire, pour nous faire entrer dans un temps qui est fabuleux, un temps qui est un peu transhistorique, en fait, qui va au-delà de ça. Et si ces récits n'ont pas forcément tous des contextes qui sont assez concrets, la distorsion temporelle, elle apparaît finalement par la simple présence parfois de personnages. C'est-à-dire qu'on peut être dans un contexte qui va être réaliste, mais d'un coup, je vais avoir une petite fée là qui va apparaître, qui va venir danser, et puis là, je vais me dire, oula, là, il y a un personnage qui vient d'un autre temps, qui apparaît devant moi. Et là aussi, ça crée une forme de rupture avec mon époque par l'apparition de ces personnages. Oui, je résume. Donc, par exemple, dans « Quand les dieux buvaient » de Catherine Dufour, on nous dit que les personnages féeriques sont des bouts de temps égarés et que s'ils apparaissent toujours dans la brume, c'est parce qu'on a deux temporalités qui frottent l'une avec l'autre et donc ça crée une sorte de brouillard temporel, de déperdition dans lequel on se plonge. Donc c'est vraiment ça qui est important ici. C'est que finalement, ces personnages... ils sont là, ils font partie d'un autre temps et ils créent cette ambiance en fait merveilleuse, un peu surnaturelle et sans limite, sans fond dire, en fait on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. Donc voilà, on a aussi Bakhtin qui nous dit que si on réactive tous les cet imaginaire là, ces mythes là, c'est aussi pour montrer qu'en fait on est en rupture avec notre époque. Et par exemple, là je vous cite un seul exemple, on a toute une morale écologique, par exemple dans les œuvres féeriques contemporaines. Ici, on a un personnage d'un fée tendre automate qui essaye de refaire vivre une fée dans un monde post-apocalyptique où le monde est en totale déperdition, et où cette fée, en fait, tu lui dis, mais tu ne peux pas rester dans cette époque parce que toi, tu es synonyme d'une période où tout était beau, tout était merveilleux, et puis en fait, aujourd'hui, ben, c'est plus le cas, donc tu ne peux plus être là. Donc c'est un moyen aussi pour nous, pour en tant que lecteur ou en tant qu'auteur, de critiquer notre société en lui montrant d'autres époques. Donc là, on est clairement dans ce que Bakhtin appelle l'inversion historique, c'est-à-dire qu'on va présenter comme étant passé ou présente des choses qui ne doivent être que dans le futur. C'est un moyen aussi de dire, bah voilà, maintenant, il faut qu'on revive nos sources, qu'on se redéfinisse pour créer un avenir meilleur. C'est-à-dire que si on réenchante en quelque sorte le monde, le demain sera meilleur. Et donc, toutes ces utopies, ces éco-utopies, ces éco-féeries, c'est un moyen de nous dire, voilà, si le passé, il était beau, c'est une sorte d'âge d'or qu'on regrette, mais en fait, on va le créer. C'est pas un passé qui a existé. Par contre, ça peut être un avenir qu'on va créer, un avenir qui sera meilleur. Et qui est là en total accord, par exemple, avec toute la mode d'écologie qu'on a actuellement, voilà, qui est une écologie autant physique que spirituelle. Donc, pour conclure, je mets ma petite une du Times que je me suis amusée à faire. Il y a une inversion historique entre toutes les temporalités qui se mêlent en féerie. Hein, l'histoire y apparaît à la fois par des références culturelles concrètes et factuelles qui servent de base aux diégèses, qui favorisent l'immersion fictionnelle du public et qui répondent à l'horizon d'attente chronotopique précis qu'on a en lisant ces ouvrages. Mais il y a aussi une rupture temporelle qui est faite par l'acte de lecture des personnages qui voyagent entre des mondes en fait tous distincts. Donc il ne s'agit pas de raconter le passé réel et historique tel qu'il a vraiment existé, mais quelque chose qui peut aussi bien être du passé, du présent que de l'avenir, en fait, sans que ça ait vraiment d'importance. Donc la fantaisie ne veut pas montrer l'histoire telle qu'elle a été, mais elle met en avant par ses problématiques, qui sont celles de notre société, notre histoire d'aujourd'hui, voire notre histoire en fait de futur. Et donc là, la fantaisie en fait s'ancre dans une historicité qui est plutôt une historicité spirituelle ou idéologique que réelle. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Noémie. Alors, moi, ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que d'une certaine manière, ça fait écho à des choses qu'on a entendues ce matin, indirectement, sur cette question de l'histoire. Évidemment, chacun son approche de la chose en fonction de ses points de vue. Mais ce que j'aime bien, c'est cette façon que vous avez de montrer que, au fond, au fond, ça n'a pas tellement de sens. Hein. Au fond, ça renvoie pas à ça. Alors bon, évidemment, je retrouve des traditions qui remontent directement aux questions fondamentales de l'imaginaire. Mais bon, de fait, on n'est pas dans des romans historiques. Hein, clairement, enfin, ça peut arriver. Clairement, c'est pas le cas. Donc ça, j'aime bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pas de questions ? Vas-y. Florian, le micro arrive. Le micro trottine. Ouais, le micro trottoir.
Merci pour l'intervention sans orage, sans pluie, on entend quand même un petit peu. J'ai bien aimé le début de ta réflexion sur effectivement quel sens ça a pour des personnages mortels d'être inscrits dans le temps, est-ce que même ils le sont, est-ce qu'ils ont conscience, etc. Effectivement, c'est un truc dans la fantasy qui est souvent assez peu travaillé, quoi. Parler ce matin de ces personnages qui vivent des siècles, des millénaires, et pourtant ils restent normaux avec les mêmes soucis, et donc c'est vrai qu'il y a des décalages. Et je pensais à une des nouvelles de Jean-Philippe Jaworski dans le recueil Janu Avera. Et il y a une des très belles nouvelles comme ça où il y a un elfe qui rencontre une petite fille, il lui dit je vais passer te voir dans quelques semaines, et après la nouvelle couvre toute la vie de cette petite fille qui vieillit dans l'attente de l'elfe jusqu'à finir très très vieille. Et elle finit très vite, elle revient toujours au même endroit où elle a rencontré l'elfe, qu'est-ce que l'elfe repasse, et disent « Ah oui, il y avait une petite fille sympa dans ce village, quand tu la vois, dis-lui que je reviendrai dans quelques semaines. » Parce que pour lui, en fait, effectivement, dans sa temporalité à lui, il n'y a clairement pas de temps qui s'est passé, alors que pour lui-même, il y a plus de 90 ans qu'on décule. Et je pense que c'est l'un des rares auteurs qui prend au sérieux cette question de différence de temporalité pour des personnages qui, tu l'as dit, qui vivent dans le même monde, mais qui, voilà, comme c'est le temps avec le milliard historique, en fait, se heurtent, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas te ramener l'échappatoire.
Oui, exactement. Alors là, effectivement, dans l'histoire de Jean-Philippe Jaworski, on le retrouve dans plein d'histoires, par contre, qui sont des histoires traditionnelles locales. Hein. J'ai lu quasiment la même histoire la semaine dernière à propos d'un lac à côté de chez moi. Mais cette histoire de temporalité va même par rapport à leur notion aussi de ce qu'il faut faire, leur réaction du bien et du mal. Quoi. C'est clairement l'histoire que Victor Hugo il écrit dans L'Ogre et la Fée, où finalement ça en conclut sur si vous aimez bien quelqu'un, c'est sympa de pas manger son enfant. Quoi. Parce que, bah oui, pour lui, c'était pas mal. Quoi. Mais oui, il faut le rappeler quand même, pour courtiser une dame, si on mange son enfant, ça va pas. Donc là, voilà, c'est pareil, cette notion du temps, effectivement, je reviens demain, mais c'est quoi demain, c'est quoi dans quelques jours? Mais finalement, on se rapproche là aussi d'une conception enfantine du temps. Pour les enfants, les jours qui passent, c'est 2 dodos, 3 dodos, mais au final, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Quoi.
Oui, et parce que Loisel, c'est très intéressant, parce que les Loisel, effectivement, ils oublient, parce qu'ils ne sont pas dans le temps, ils oublient la rose, sauf son petit frère, qui reste traumatisé, et du coup, c'est inverse, en fait.
Exactement.
C'est le plus jeune, qui est le seul à être inscrit dans le temps, et à avoir une mémoire traumatique de l'événement, et au point d'être banni.
Exactement.
Et dans un asile, alors que c'est l'enfant. Et du coup, on a souvent l'impression que les enfants ne savent pas ce qu'est le temps. Et vous voyez, ils inversent le truc en disant en fait que c'est le gamin qui sait ce qu'est le temps.
C'est intéressant ce que tu disais aussi sur le titre des Chroniques de Narnia. C'est vrai que j'avais jamais.
Oui, ça, j'ai noté. Vous êtes sûr de votre coup?
C'est Samuel Mine. Je me mets sous son... Samuel Mine qui explique ça dans un article.
Parce que c'est vrai que pour moi, chronique, je le voyais toujours dans un sens de chronique historique. Oui, chronique, c'est voilà, une revendication aussi d'historicité, donc de véracité. Oui. Et j'avais jamais pensé à cette possibilité de chronique comme simplement retour, quelque chose de répétitif, mais quelque chose de dangereux aussi, parce que ce qui est chronique, c'est une maladie.
Exactement, oui. Ah, oui, c'est ça, quelque chose qui revient malgré soi, en fait, tout simplement, quoi. Et on peut rien y faire, en fait, hein. Comme une maladie chronique, on ne peut rien faire pour la soigner. Donc on est dans un cycle qui devient une sorte de cercle vicieux, et comme l'imaginaire, en fait, qui on le réactive sans cesse et qui revient quand même.
Bon, après, il y a aussi il y a les deux sens hein, dans chez les mystères. Parce que j'avais oublié que Narnia, c'est la vérité. Hein, donc, Et puis, ce qu'il y a aussi au fond de tout ça, moi, qui me semble pas mauvais de rappeler de temps en temps, c'est que ça montre bien comment on a affaire à des espaces. Vous utilisez la notion de chronotope à très juste titre, sauf que c'est des chronotopes sans chronos, plus souvent, hein. Et ça, c'est bien une façon de montrer comment on a affaire à des univers qui se construisent par cette espèce d'hypotypose de la fiction, hein, où on pose d'emblée que, grosso modo, ce qui est le repère majeur, hein, dans l'existence, bah, disparaît. Hein, on est dans autre chose. Et bon, du même coup, ça permet de convoquer les valeurs, ça permet de... Entre autres. Parce que le temps de la fable est très proche, hein,
oui. À bien des égards. Oui.